Check my house pour être bien dans votre bien présente.
Sud Radio, on parle immo.
On parle immo, c'est le rendez-vous 100% immo de Sud Radio. Bonjour Marc.
Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et au sommaire, et après le journal de l'immo, et parce qu'on est encore dans la période d'Halloween, on va parler des maisons hantées et de la mémoire des lieux. Vous avez eu un coup de cœur pour une charmante maison perdue dans la campagne, mais une fois sur place, vous ne vous sentiez plus bien. Vous vous sentiez déprimé, triste, malheureux. Votre maison, votre nouvelle maison a peut-être été le théâtre un jour d'un passé lourd, d'une scène de crime ou encore d'une mort violente. Pour en parler avec moi, Alexandre Delovan, il est spécialiste de la question et qu'on connaît ici très bien à Sud Radio dans Réponse de Pro. On retrouvera Corinne Joly pour une nouvelle séance de coaching immobilier aujourd'hui. On verra avec Corinne comment on peut reconstituer l'histoire de sa maison. Et en fin d'émission, Frédéric Fougerat, pour une chronique 48 secondes, cette semaine, on lui demandera quelle est la différence entre un compromis et une promesse de vente. Mais pour l'heure, c'est le journal de l'immo.
Sud Radio, on parle immo, le journal.
Avec le-partenaire.fr, le portail immobilier 100% digital qui regroupe annonces, financement et assurances.
Un journal que vous nous présentez, Marc, et on commence par cette inquiétante envolée de fausses annonces immobilières.
Les fausses annonces immobilières, en effet, se multiplient sur Internet. En 2018, 7000 alertes ont été reçues par Pharos, c'est la plateforme de signalement des contenus illicites sur Internet et gérée par la police. Même constat pour le centre d'appel Info Escroquerie, qui depuis début 2019 a reçu déjà plus de 600 appels pour de fausses locations. Alors, c'est un chiffre qui représente environ 30% de plaintes en plus par rapport à l'an dernier. Mais comme tous les cas ne sont pas forcément signalés, le chiffre des arnaques est probablement bien plus important.
Alors pour décrocher un logement, il paraît que les jeunes seraient prêts à tout. Dites-nous yes. En un petit peu plus, Marc.
Yes, et bien, d'après un sondage OpinionWay pour Umbrella, 23% des jeunes de 18 à 24 ans ont déjà falsifié une pièce pour leur dossier de location, pour obtenir un logement. Le document le plus souvent trafiqué, c'est la fiche de paye pour 17% des jeunes sondés. Presque autant avouent avoir déjà menti sur leur profil, en affirmant par exemple qu'ils étaient en couple alors qu'ils étaient en colocation. Et parmi les autres documents falsifiés, on a les avis d'imposition pour 14% des sondés, les quittances de loyer, les attestations d'hébergement ou encore les pièces d'identité.
À mon avis, ça ne concerne pas uniquement les jeunes. Hein
non.
Enfin, Marc, des milliers de places en hébergement d'urgence vont être ouvertes cet hiver.
Absolument. Alors que les températures commencent à doucement baisser en France et que la trêve hivernale vient à peine de débuter hier, vendredi 1er novembre, le ministre chargé du logement, Julien de Normandie, a annoncé que 14 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires vont ouvrir durant cet hiver en France. Donc une partie d'entre elles seront pérennisées, mais on ne connaît pas encore vraiment le chiffre exact de ces logements pérennisés. En tout cas, parmi ces 14 000 places, la moitié, 7 000, seront déployées en Île-de-France.
Merci beaucoup Marc pour ces actus. Et aujourd'hui, dans On parle immo, on parle des maisons hantées.
Absolument. Et aujourd'hui, et aussi parce qu'on est en plein dans le week-end d'Halloween, on va parler de ces maisons hantées, des maisons lourdes, d'un passé lourd. Voilà, vous avez eu un coup de cœur pour une charmante maison perdue dans la campagne, mais quand vous avez pris possession des lieux, vous vous êtes tout d'un coup senti mal, déprimé, triste. Voilà, votre maison a peut-être été un jour le théâtre d'une scène de crime, d'une mort violente. Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Delovan. Il est médium et surtout spécialiste de la mémoire des lieux, qu'on connaît bien ici à Sud Radio, car il accompagne Trina McDine chaque après-midi dans l'émission C'est votre avenir. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alexandre, alors juste avant de parler avec vous de ces maisons hantées, j'ai demandé à Valérie Minassian, qui est directrice associée de l'agence Paris Corona Habitat, de nous donner un exemple de maison hantée. Valérie.
Bonjour Marc, bonjour à tous. Donc effectivement, à Vervic, sud, donc dans le nord de la France, en 2011, des locataires ont pu affirmer sentir des odeurs de fumée dans leur maison, voir des taches de sang dans leur douche ou au plafond, et observer des objets changer de place régulièrement. Il n'en a pas valu plus pour eux pour penser que la maison était hantée et ils évoquaient un drame passé dans cette maison quelques temps auparavant.
Vous en aviez trouvé d'autres, hein, des maisons hantées, je
oui,
crois.
Oui, des maisons qui saignent.
Super. Alexandre Delovan, pourriez-vous m'expliquer pourquoi certaines personnes qui ont été attirées par un lieu, par une maison, se retrouvent tout d'un coup dans un sentiment de mal-être en prenant possession de ses
biens. Oui, Marc, alors déjà, selon les derniers sondages, il y a quand même que 54% des Français qui croient en ce genre de choses, et sur 10% de maisons recensées, il y a juste 1% où effectivement il y a des phénomènes inexpliqués à ce jour. Donc c'est quand même très...
assez marginal.
Exactement. Ouais. Ensuite, si vous voulez, souvent, ça s'adresse aux gens, on peut se sentir attiré comme on peut se sentir attiré d'une personne, donc on ne sait pas pourquoi, mais quand on voit parfois des personnes, on a envie d'aller vers cette personne. Eh bien, sur un lieu d'habitation, ça peut être la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concentration émotionnelle. Tout est en rapport au vécu de ce lieu, de cet endroit. Alors, parfois, il y a des habitations qui peuvent être construites sur des anciens hôpitaux, des cimetières, même sur des champs de bataille. Et là, il y a une mémoire émotionnelle dans ce lieu-là.
Et dites-moi, ce sentiment de mal-être, parfois il peut se ressentir que dans une seule pièce, une cuisine, une salle de bain, une chambre. Comment on explique ça ? Est-ce que ça voudrait dire que dans ce lieu, dans cette pièce, il se serait passé un drame ?
Alors oui, ça peut être dans ce lieu-là, mais ça peut expliquer aussi d'autres choses. C'est-à-dire que cette pièce rassemble aussi tous les centres énergétiques qui se sont catalysés dans cet endroit. Alors des fois, ça peut être tout simplement lié à une surcharge de courant électrique. D'accord. Quand on a par exemple des ampoules qui sans cesse se mettent à griller. Il y a une surcharge. Il y a aussi au niveau du sol d'une faille tellurique, de nappe phréatique, qui fait que on le sait bien que forcément quand ça stagne, c'est pas forcément bon. Et puis bien évidemment sur des événements qui ont vécu, parce que en fait ces mémoires sont enregistrées dans des cellules matérielles comme le bois, la pierre et tout ça, et donc les gens vont ressentir ce qu'il y a eu en termes de vécu, et ça se matérialise peut-être par des esprits, par tout ça.
Alors justement, qu'est-ce que les maisons enregistrent et nous retransmettent ?
Alors, ce qu'elles enregistrent, c'est des séquences de vie. Ça peut être aussi des phénomènes de courant électrique. Ce sont donc des émotions que l'on réceptionne. Et c'est en fonction de notre sensibilité. Et puis aussi, il y a parfois un effet miroir qui, en fonction de ce qu'on a vécu, de ce que l'on ressent, donc ça nous renvoie à des choses que nous-mêmes, nous avons vécues.
Parlons un peu des sols. Est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur notre santé et nos comportements ?
Oui, exactement. Au niveau des sols, il y a des sources, il y a des puits dans les sols, des nappes phréatiques qui sont plus ou moins profondes, avec des veines d'eau. Et l'eau a une mémoire. D'ailleurs, le docteur Masaru, qui est un docteur japonais scientifique, démontre des expériences sur tout ce qui est en rapport à l'eau et à ses mémoires. Et effectivement, c'est en fonction de ces sols où il peut très bien avoir des réactions ou des manifestations.
Alexandre, est-ce qu'il existe des solutions pour guérir de ces sentiments de mal-être dans une maison ?
Je ne vais pas vous dire non. Il y en a bien sûr, évidemment. Alors, elle peut être liée à faire des nettoyages, des rééquilibrages énergétiques. Aussi, on peut faire appel à des géobiologues qui eux-mêmes vont pouvoir étudier les sols, les endroits et tout ça. Et puis, il y a des techniques en feng shui qui sont là pour...
Oui, feng shui, ça peut être une solution... Oui. Corinne Jolie, je me tourne vers vous. Est-ce que par hasard vous avez des maisons hantées sur votre site apap.fr ?
Bah, si on en a, les vendeurs nous l'ont pas dit. Pourquoi ? C'est un vrai point fort pourtant.
En tout cas, merci beaucoup Alexandre Delevanne pour toutes ces infos. On rappelle qu'on vous intervenez donc régulièrement sur Sud Radio dans l'émission C'est votre avenir, tous les jours de 16h à 17h avec notre amie Trina McDean. On marque une petite pause, Laurence, un petit café, petit café croissant, et puis on se retrouve juste après avec Réponse de Pro.
Sud Radio, on parle IMO.
Et oui, on parle IMO, c'est la suite à 10h moins le quart sur Sud Radio, c'est maintenant l'heure des Réponses de Pro.
TAP, site immobilier de particulier à particulier présente.
Sud Radio, on parle IMO, Réponse de Pro.
Et dans Réponse de Pro, on retrouve Corinne Joly, présidente de PAP.fr, pour une nouvelle séance de coaching immobilier. Corinne, on va changer des sujets de d'habitude aujourd'hui, et alors qu'il y a ceux qui recherchent l'histoire de leur famille, il y a aussi ceux qui recherchent, qui veulent connaître l'histoire de leur maison. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ?
Alors oui, c'est possible et ça peut vous permettre de savoir justement s'il y a eu des drames qui se sont passés auparavant ou si votre maison a été construite sur un cimetière ou d'autres choses joyeuses comme ça.
Et vous savez d'ailleurs, j'ai découvert aux États-Unis un site qui s'appelle Deed in House, donc qui référence toutes les demeures qui ont connu des drames crimes, terribles, des crimes. Voilà, vous tapez une adresse et boum, vous avez qu'est-ce qui s'est passé, combien de morts il y a eu là-dedans, dans quelles conditions, etc.
Il y a des lectures très saines. Hein.
Alors, on n'a pas ça en France, on n'a pas l'équivalent en France, mais on peut quand même remonter dans le temps. Notamment en consultant en premier votre acte de propriété.
Alors c'est le premier document à consulter. De la maison. Hein.
Alors si vous n'êtes pas encore propriétaire et que c'est une maison que vous voulez acquérir, il faut le demander au propriétaire. C'est un document que vous recevez environ 3 mois après avoir signé l'acte de vente. Donc vous ne repartez pas avec le jour de la vente, mais voilà, si vous êtes en train d'acheter une maison, le propriétaire l'a. Et c'est un document qu'il faut absolument conserver parce qu'il il retrace beaucoup d'éléments sur l'évolution de la maison et des propriétaires.
Justement, c'est quoi les informations qu'on trouve dans cet acte de propriété ?
Alors, la première chose que vous allez retrouver, c'est le nom des propriétaires successifs. Donc ça, ensuite, bah, typiquement pour les crimes, vous les tapez ensuite sur Internet et vous allez voir s'il y a des faits divers qui correspondent à ces propriétaires. Ensuite, il y a la description complète du bien, les références cadastrales, les éventuelles servitudes et l'origine de la propriété. Donc, il y a beaucoup d'informations dans l'acte de propriété.
Donc, si je comprends bien, c'est vraiment un outil qui va nous permettre, qui va permettre au propriétaire de remonter dans le temps de son bien.
Alors, oui, ça va permettre de faire ça. Alors, le nom des propriétaires, oui, ça permet de les rechercher, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas d'informations sur eux. En revanche, il y a beaucoup d'informations sur le bâti. Là, je reviens sur des considérations plus terre à terre. Vous allez pouvoir avoir tous les permis de construire qui ont été déposés sur la maison. Est-ce qu'elle a été agrandie ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été ajoutées ? Vous y trouverez les assurances qui ont été souscrites. Donc c'est aussi de toute manière un document qui est très pratique pour comprendre comment a été construite la maison, dans quel ordre, est-ce qu'il y a des choses qui ont été construites avant d'autres. Et ça, ça peut être très utile aussi si vous avez des travaux à faire ou si vous voulez comprendre ce qui s'est passé dans la maison.
Corinne Joly, si ma maison a été construite lors de la Révolution, est-ce que je vais pouvoir savoir qui est-ce qui habitait ?
Alors oui, mais ça va être un petit peu plus de travail. Parce que l'acte de propriété, il ne remonte que sur 100 ans. 100 ans.
D'accord, c'est un siècle. D'accord. Un siècle.
Voilà, donc pour remonter jusqu'à la Révolution, il va falloir aller chercher ailleurs. Il y a 2 sources d'informations importantes. La première, c'est les archives départementales. Alors tout le monde a accès à ces archives. Il faut juste vous rendre en mairie et vous inscrire en présentant une pièce d'identité. Et il y a également les cadastres. Donc là aussi, il faut se rendre au centre des impôts fonciers pour consulter les cadastres. Vous aurez le nom des propriétaires, et là pour le coup ça va remonter beaucoup plus loin, ça va remonter jusqu'à la construction de la maison. Le seul inconvénient de ces 2 choses-là, c'est que selon l'endroit où vous habitez, le travail sur les archives et les cadastres est plus ou moins bien fait, donc il y a quand même un peu d'aléas, mais il y a quand même énormément d'informations, et vous pouvez remonter avec les archives et les cadastres, vous trouvez tous les noms des propriétaires et donc vous pouvez remonter jusqu'à la Révolution. Au-delà des crimes, ça peut vous permettre de voir s'il y avait quelqu'un de connu qui habitait dans la maison. Non mais c'est vrai, ça peut être un écrivain, ça peut être... Bon, en général, les écrivains, on le sait. Mais ça peut aussi être des bonnes nouvelles.
Et dans la maison elle-même, est-ce qu'on peut trouver des informations intéressantes ?
Alors oui, il y a des choses qui peuvent être intéressantes dans la maison d'un point de vue architectural. Je vais vous donner par exemple un exemple. Si vous avez une corniche, vous pouvez être à peu près sûr que votre maison date du XVIIe siècle.
D'accord.
Et donc, elle était là pendant la Révolution. Et donc, donc il y a des éléments d'architecture, il y a aussi les matériaux qui peuvent être intéressants à examiner. Et sinon, il ne faut pas oublier le jardin, parce que souvent, les arbres sont beaucoup plus vieux que nous. Donc, il peut y avoir des arbres qui vous indiquent quand est-ce qu'ils ont été plantés. Enfin, un arbre, c'est assez daté.
C'est une mémoire.
Il faut s'y connaître un petit peu, mais un arbre a une mémoire aussi.
Et je pensais aux bibliothèques, bon, c'est même si aujourd'hui les gens fréquentent plus beaucoup les bibliothèques et qu'on va beaucoup plus chercher les infos sur Internet, mais est-ce que c'est quand même utile d'aller faire un tour dans ces bibliothèques ?
Oui, c'est utile parce que les bibliothèques, notamment dans les villages, peuvent trouver beaucoup d'informations sur la commune, sur ses infrastructures, etc. Et même si on trouve beaucoup de choses sur Internet, honnêtement, il y a encore énormément de documents qui n'ont pas été numérisés. Hein, donc, il ne faut pas croire qu'on a tout sur Internet. Et surtout quand ça concerne des documents historiques et des archives, Il n'y a pas forcément sur Internet, les bibliothèques peuvent avoir des informations.
Donc Corinne, si je résume, si on veut retrouver l'histoire de sa maison, il faut avoir un minimum de curiosité et ne pas avoir peur de fouiller dans la paperasse. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir reconstituer sa maison. Merci beaucoup Corinne Joly, on vous retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouveau coaching immobilier. On rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent eux aussi bénéficier d'un coaching immo gratuitement en s'inscrivant sur pap.fr. Réponse de pro, c'est terminé pour aujourd'hui.
Sud Radio, on parle immo, réponse de pro.
Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.
Et à 10h10 sur Sud Radio, avant de retrouver le 48 secondes de Frédéric Fougera. Marc, vous nous avez sélectionné quelques coups de cœur cette semaine.
Et oui, un premier coup de cœur qui nous a été proposé par Nathalie Muller. Elle est consultante immobilier chez Efficity. Il s'agit d'un bel appartement duplex de type T4 de 75 mètres carrés, habitable, qui se situe à Barre, c'est dans le Bas-Rhin. Et il est bien, parce qu'il a une très jolie vue sur le vignoble d'ailleurs. Le bien se trouve à seulement 30 minutes de Strasbourg, un quart d'heure de Molsheim et 10 minutes d'Aubernay, à deux pas du centre-ville. À proximité de toutes les commodités, l'appartement est situé au deuxième et dernier étage d'une copropriété. Calme et bien entretenu au premier niveau, on trouvera un grand hall d'entrée, une cuisine aménagée et entièrement équipée, ouverte sur un salon séjour de 28 mètres carrés. Des toilettes séparées ainsi qu'une chambre à l'étage. La partie nuit compte deux chambres, une salle de bain avec baignoire, toilette. Le prix de ce bien, il est de 128 000 euros.
Un autre coup de cœur, Marc ?
Alors là, je suis allé un peu fouiller sur pap.fr, le site de notre amie Corinne Joly, parce que je voulais rester un peu dans le thème d'aujourd'hui.
Voir s'il y avait des maisons.
Et je voulais essayer de trouver un manoir. Et j'en ai trouvé pas mal, Corinne, chez vous, hein, des manoirs. Et notamment un du 19e siècle, qui est situé à proximité de Sarlat. D'une surface de 360 mètres carrés répartis sur quatre niveaux. Ce manoir compte deux pigeonniers et un terrain d'un peu moins de 3 hectares bordé par une rivière. Le propriétaire a même laissé les photos de ses ancêtres sur la cheminée. Ça m'a fait marrer parce qu'on aurait vraiment dit les photos de mon arrière-grand-père. Je vous invite vraiment à y jeter un œil parce que ça vaut vraiment le coup, n'est-ce pas Corinne ?
Bah écoutez, ce manoir, il a plutôt du succès. Le propriétaire a déjà reçu 16 Mince. Demandes par mail de contact. Donc, pour l'instant, ça marche bien. Donc, l'arrière-arrière-grand-père, on peut dire qu'il a du succès.
Allez, on se fait un petit dernier...
Oui, pas un manoir peut-être, non ? Un petit truc un peu plus
non,
accessible.
On va partir ouais. à Choisy-le-Roi. Allez. C'est dans le Val-de-Marne, c'est tout près de Paris. C'est un bien qui est proposé par vous, Valérie Minassian. Donc de Paris Couronne Immobilier. Il s'agit d'un appartement en duplex entièrement repeint. Hein, il est repeint, lui.
Il est repeint.
Il est repeint. Au troisième étage d'un immeuble récent avec
saignent.
Une vue sur la Seine. Le bien compte une entrée, une cuisine, un séjour, salle à manger, exposé sud-ouest, 27 mètres carrés. Donc le séjour, voilà, qui ouvre sur une terrasse de 13 mètres carrés. Valérie, ce bien. Il est proposé à combien ?
330 000 euros, honoraires d'agence inclus.
Ouais, c'est un bon prix, ça, pour Choisy-le-Roi ?
Ouais, pour Choisy-le-Roi, pas très loin de Paris, vue saine, lumineux, faible charge. On est plutôt bien, oui.
Ok, merci Valérie.
Merci.
Et si on retrouvait le 48 secondes de Frédéric Fougera ?
Ah bah, allons-y, allez, il est là.
Sud Radio, on parle immo, les 48 secondes.
Avec Efficity by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité.
Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, quelle est la différence entre un compromis et une promesse de vente ?
Bonjour Marc. Et oui, attention, il peut y avoir confusion. La promesse de vente n'engage que le vendeur. Une fois signé, le vendeur se doit de réserver le bien pour l'acheteur au prix convenu, dans la limite d'une durée fixée ensemble. De son côté, l'acquéreur verse une indemnité d'immobilisation du bien, généralement à hauteur de 10% du montant total de la vente, hors frais de notaire. Cette promesse est écrite et signée, soit devant le notaire, soit sous sein privé. L'acquéreur bénéficie alors d'un délai d'option, au terme duquel il précisera s'il achète ou non le bien. On dit lever l'option ou ne pas lever l'option. Si l'acheteur se désiste, il perdra son indemnité d'immobilisation qui restera acquise au vendeur, sauf en cas de défaillance d'une condition suspensive, comme par exemple ne pas obtenir un prêt. L'acquéreur pourra alors se désengager et sera remboursé de son indemnité d'immobilisation. Le compromis de vente engage, lui, les deux parties, le vendeur et l'acheteur. Il les engage à des obligations réciproques de mener la transaction à son terme. Le compromis de vente permet au vendeur et à l'acquéreur de s'accorder sur les termes d'une vente avant la signature définitive de l'acte authentique devant le notaire. Ils se mettent d'accord sur le prix de vente du bien immobilier, les clauses suspensives ou encore la date de la vente. L'acquéreur se retrouve dans l'obligation d'acquérir le bien et le vendeur de lui vendre. Voilà, maintenant vous savez comment acheter ou vendre.
Merci Frédéric Fougera et on rappelle que cette chronique 48 secondes, on la retrouve sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Par l'IMO, oui, c'est terminé pour aujourd'hui Laurence.
Oui, j'ai cru comprendre.
La semaine prochaine, on parle de VEFA, logement neuf. VEFA, attention au piège. Très bon week-end Laurence.
Merci beaucoup.
Très belle semaine très à toutes et à tous.
Et puis dans quelques instants, à suivre vos animaux avec Natacha Harry. Nous, on se retrouve dès demain pour le Grand Matin Week-end. Mais là, c'est l'avant-match rugby. Allô, allô, allô. Est-ce que nous avons Xavier Barré en ligne
Ah, bonjour,
avant, il y a la pub. Ah, oui. Allez, hop.
Avec Check My House, pour être bien dans votre bien.